الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد. Donc aujourd'hui le troisième cours de notre commentaire du livre ثلاثة الأصول de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi. Comme d'habitude, je vais lire le matn en arabe pour ceux qui veulent l'apprendre, puis on fera une brève traduction en français, puis on commencera l'explication. قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. Le matin, vous voyez parfois certains moutons que vous achetez, il y a peut-être un mot qui est venu avant un autre ou après un autre. Ceci n'est pas un souci. Tu vois que le frère qui dit le matin fait, il y a un mot avant un autre ou un mot qui a été effacé. Il y a plusieurs copies du livre qui nous ont été rapportées selon la personne qui aura fait imprimer le livre et quelle copie sur, ou la copie sur laquelle il se sera appuyé. Comme cela dans les explications, tu trouveras parfois quelques petites différences. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. On va s'arrêter ici pour l'instant. Donc dans la traduction approximative de ces paroles, rahimahullah, sache qu'Allah soit miséricordieux envers toi, qu'il est obligatoire à tout musulman et musulmane d'apprendre les trois points qui suivent et de les mettre en application. Le premier, Allah nous a créés et nous a donné notre subsistance et il ne nous a pas laissés sans commandement et sans interdiction. Bien au contraire, il nous a envoyé un messager. Quiconque lui obéit rentrera au paradis et quiconque lui désobéit rentrera en enfer. Et la preuve de cela se trouve dans le verset suivant. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. De même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit au messager, nous le saisîmes donc rudement. Le deuxième, Allah n'accepte pas qu'on lui associe quiconque ou quoi que ce soit dans son adoration, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. La preuve de cela est dans le verset suivant. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Le troisième, il n'est pas permis à celui qui a obéi au messager, qui a cru en l'unicité d'Allah et qui n'a adoré rien d'autre que lui et rien d'autre avec lui, de prendre pour ami, d'aimer et de s'allier à celui qui s'oppose à Allah et à son messager, même s'il s'agit du plus proche de nos parents. Et la preuve se trouve dans le verset, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Nous arrêterons ici pour l'instant. Nous dirons « Wa billahi tawfiq ». que ici, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, a rappelé, toujours dans l'introduction de son livre, les trois fondements, trois points, et il nous dit qu'il est obligatoire à tout musulman et musulmane de les apprendre et de les mettre en application. Le premier de ces points est le fait qu'Allah nous a créés et nous a donné notre subsistance. Et il ne nous a pas laissés sans commandement et sans interdiction. Bien au contraire, il nous a envoyé un messager: quiconque lui obéit rentrera au paradis, quiconque lui désobéit rentrera en enfer. Puis il cita le verset de Sourate Al-Muzammil. Nous dirons que ces trois points qui ont été évoqués par Cheikh l'Islam ici, qu'il est obligatoire à chaque musulman et musulmane de connaître et de mettre en application, sont les principaux points qui sont en rapport avec le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que ses droits. Le fait qu'Allah azza wa jalla a créé la création afin qu'il l'adore. Il ne les a pas laissés sans but, il ne les a pas créés sans but, mais plutôt avec un but. Ce dernier nous a été évoqué dans plusieurs versets. Comme cela, il nous a été évoqué dans plusieurs versets, le fait qu'Allah Azza wa Jalla ne nous a pas créé comme cela sans but. Il dit dans le sens approximatif de ses paroles, comme dans Sourate Al-Mu'minun, le verset numéro 115 et 116, il dit dans le sens approximatif de ses paroles: pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain, pas de divinité en dehors de lui, digne d'adoration, le Seigneur du trône sublime. Comme cela, dans Surat Al-Qiyamah, le verset 36 au verset 40, il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa ta'ala, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence? Puis Allah l'a créé et formé harmonieusement, puis en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Cela, Allah n'est-il pas capable de faire revivre les morts? En effet, Allah Azza wa Jal nous a créés afin que nous l'adorions, comme il le dit dans le sens approximatif de ses paroles: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné cette adoration dans maintes et maintes versets, comme dans sa parole: ô vous les gens, adorez votre Seigneur, et autre que cela. Certes, Allah Azza wa Jal est celui qui mérite l'adoration en dehors d'autres que lui. Et il rentre dans cela, c'est-à-dire l'adoration, les ordres qu'il nous a donnés, et le fait de délaisser ses interdits. Ces ordres qu'il nous a donnés, et que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donnés aussi. Comme cela, les interdits évoqués par Allah Azza wa Jalla dans son livre, et évoqués par son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunnah. Tout cela rentre dans l'adoration, et ceci est l'islam, et ceci est notre religion, ceci est la foi, et ceci est la rectitude et la guidée. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a envoyé un messager, comme l'a évoqué ici Cheikh l'Islam. Ce messager, comme vous le savez, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a été envoyé avec tout ce que nous avons évoqué précédemment. Il lui fut révélé le Coran afin que nous nous alignions sur la religion de vérité et sur la guidée, afin que nous œuvrions selon ce qu'il nous a ordonné, que nous écartions de ses interdits. Et ce dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le verrons plus en détail dans le troisième de ces trois fondements, est le sceau des prophètes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prophète et de messager après lui. Il est venu afin d'instruire les gens, de leur enseigner leur religion et de les sortir des ténèbres vers la lumière. Et comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ceci est le sens de sa parole, la parole de Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, et quiconque lui désobéit pardon, et quiconque lui obéir entrera au paradis, et quiconque lui désobéir entrera en enfer. Nous voyons dans cela la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, toute ma communauté, ou tous les gens de ma communauté rentreront au paradis, sauf celui qui ne l'aura pas voulu, qui l'aura refusé. Et le sahaba de s'étonner en lui disant, et qui refuse cela au messager d'Allah? Et il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'aura obéi rentrera au paradis, et celui qui m'aura désobéi aura certes refusé l'entrée au paradis. Comme cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant l'obéissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ces paroles où il dit tabaraka wa ta'ala, et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Celui donc qui obéira à ce messager et s'alignera selon sa religion pourra prétendre au paradis. Et celui qui lui aura désobéi et qui aura été à l'encontre de sa religion, celui-là sera promis à l'enfer. Et comme cela, Allah Azza wa Jal nous dit, et c'est ce verset qu'a pris Cheikh l'Islam pour illustrer cette règle ou ce point, nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Ce messager qui a été envoyé à Pharaon, comme vous le savez, Moussa alayhi salam. Pharaon désobéit au messager, nous le saisîmes donc durement. Et ici Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle ce verset dans son livre pour nous mettre en garde cette communauté, que si elle désobéit au messager qui lui a été envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle aura la même rétribution et elle rencontrera le même châtiment qui a été rencontré par Pharaon et son peuple lorsqu'ils ont désobéi au messager qui leur a été envoyé, Moussa alayhi salam. Ici un point que nous allons détailler rapidement concernant la différence entre le messager et le prophète. Ar-Rasoul, le messager, et An-Nabi, le prophète. Est-ce que ces deux choses-là sont identiques? Un messager est un prophète, ou ces deux choses-là sont différentes? Ar-Rasoul, le messager, est celui qui est envoyé avec un message. Et Ar-Rasoul, ici, le mot Rasoul veut dire en réalité, ou veut dire en arabe donc mursal, c'est-à-dire envoyé. Ar-Rasoul, sa définition, les savants ont divergé à propos de cela. À propos, pardon, de la différence entre Ar-Rasoul ou An-Nabi. Nous dirons que Ar-Rasoul, sa définition est, c'est un homme parmi les fils de Adam alayhi salam, auquel il est révélé une législation et auquel il lui est ordonné de la transmettre. Un homme, les mots sont très importants, un homme parmi les enfants de Adam alayhi salam, auquel il est révélé une législation et auquel il lui est ordonné de la transmettre. Et un Nabi, c'est-à-dire le prophète, c'est un homme aussi, homme parmi les enfants de Adam alayhi salam, auquel il fut révélé, c'est-à-dire que la révélation sur lequel est descendue la révélation, pardon, ceci est plus juste, sur lequel est descendue la révélation, et qui est venu pour affirmer et appeler à une législation d'un messager qui lui a précédé. Un homme parmi les enfants de Adam alayhi salam, sur lequel est descendue la révélation, et qui est venu pour affirmer et appeler à une législation d'un messager qui l'a précédé. Ceci est la définition la plus exacte de Ar-Rasoul ou An-Nabi, c'est-à-dire du messager et du prophète. Comme cela, nous voyons qu'il y a une certaine divergence. Certains parmi les savants, de grands savants, dont leur parole est estimée, on dit que le prophète est un homme parmi les enfants de Adam alayhi salam, sur lequel est descendue la révélation, mais qui n'a pas été ordonné de transmettre ce qui lui a été révélé. Et ici, dans notre définition que nous avons évoquée ici, qui est évoquée par nombre de savants, le fait que ce dernier est ordonné de transmettre le message qui lui a été révélé et d'appeler à une législation d'un messager qui a été envoyé avant lui. Nous voyons dans cela la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, que de prophètes avons-nous envoyé aux anciens ? Que de prophètes avons-nous envoyé aux anciens ? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla nous parle du fait qu'il a envoyé des prophètes. Il les a envoyés afin d'appeler à quelque chose. C'est-à-dire que nous voyons ici dans ce verset la preuve que le prophète aussi, comme le messager, est envoyé et est ordonné de transmettre le message. Ceci est la définition la plus juste, Inch'Allah, du messager et du prophète. Et il faut savoir que tout messager est aussi prophète, mais tout prophète n'est pas forcément messager. Une dernière chose, le fait qu'il n'y a pas chez les femmes de prophétresse, c'est pour cela que dans notre division, nous avons dit un homme parmi les fils de Adam alayhi salam. Il n'y a pas chez les femmes de prophétresse. Comme cela, ceci est une question, est-ce qu'il y a parmi les djinns des prophètes ? Est-ce qu'il y a parmi les djinns des prophètes et des messagers ? Allah Azza wa Jalla a ordonné les hommes et les djinns de l'adorer. Il ne les a créés que pour cela, que pour l'adoration. Il y a-t-il parmi les djinns des prophètes et messagers ? Kamel ?
Il y a des
nouveaux. Ahsant. Il n'y a pas chez les djinns de prophètes. Mais il y a des nuzur. Il n'y a pas chez les djinns d'envoyés, il n'y a pas de rusul, pluriel de rasoul, il n'y a pas de rusul, mais il y a des nuzur. Qu'est-ce que nuzur, le pluriel de nadir? Un nadir, c'est l'avertisseur. C'est-à-dire que chez les djinns, il n'y a pas de prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux hommes et aux djinns. Mais il y a chez eux des nuzur, des avertisseurs. Le deuxième point qui a été évoqué par Cheikh l'Islam ici est qu'Allah n'accepte pas qu'on lui associe avec lui quiconque ou quoi que ce soit dans son adoration, que ce soit un de ses anges rapprochés ou un prophète envoyé. Et la preuve de cela, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne en dehors d'Allah. Ce point a été évoqué pour appuyer le premier point. Et ceci est l'appel de l'ensemble des messagers. Comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le sens approximatif de ses paroles, nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager qui leur dit « Adorez Allah et écartez-vous de At-Tarut ». Et ce point, nous l'avons déjà étudié dans Al-Qawad al-Arba', les quatre règles. Nous dirons simplement ici que il faut que tu saches que Allah Azza wa Jalla n'agrée pas que tu y associes quiconque dans son adoration. Comme c'est lui qui a créé, qui t'accorde ta subsistance, qui fait mourir et donne la vie, c'est lui qui t'a accordé tous ses bienfaits, c'est lui le seul qui mérite l'adoration. Pour cela, il n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit. Que cette personne ou que cette chose associée soit la plus vile des choses, une pierre, un arbre, ou que ce soit, quand je dis la plus vile, celle qui a le moins d'importance, que ce soit une pierre, un arbre, ou parmi les meilleurs de ces créatures, un ange rapproché ou un messager envoyé. Et l'adoration n'appartient que à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous le voyons, cela, nous le répétons tous les jours dans nos prières. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. À toi seul appartient l'adoration. Toi seul nous adorons. Iyyaka na'bud. Puis la troisième, ou le troisième de ces points, il n'est pas permis à celui qui a obéi au messager, qui a cru à l'unicité d'Allah, et qui n'a adoré rien d'autre que lui, c'est-à-dire celui qui aura réalisé les deux points que nous avons évoqués précédemment, de prendre pour ami, d'aimer et de s'allier à celui qui s'oppose à Allah et à son messager, et ceci même s'il s'agit du plus proche de ses parents. La preuve, l'aïa que nous avons récité, que nous avons cité de Surat al-Mujadila. Ici, ce point est le point qui concerne ce qu'on appelle la croyance en al-wala ou al-bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu. Ce point, si vous vous rappelez, je l'ai traité entièrement dans notre série concernant les caractéristiques principales des gens de la Sunna. Car ceci, en effet, fait partie des caractéristiques principales des gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. Pour résumer, je vous renvoie à ce cours. Pour résumer le fait que tu saches, lorsque tu auras réalisé bien sûr ces deux points précédents, tu n'adoreras que Allah seul et sans associé, et que tu obéiras au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que tu saches qu'il t'est impératif, il est impératif à tout musulman ou musulmane, de ne pas prendre pour ami intime, d'aimer et de s'allier à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, ceci même s'ils sont parmi tes proches parents. Ici nous parlons de Al-Mu'ala, c'est-à-dire lorsque nous parlons de Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et le désaveu. Ici ce qui est cité dans ce verset, c'est Al-Mu'ala. Al-Mu'ala, c'est-à-dire le fait de s'allier, mais ce n'est pas simplement cela. Al-Mu'ala et de plusieurs sortes. Et la sorte qui est interdite ici, c'est celle qui réunit l'amour et le secours. Al-Mahabba wa al-Nusra. L'amour et le secours. C'est-à-dire que tu aimeras ceux qui s'opposent à Allah et à son messager et que tu les secoureras. Bien sûr, nous avions traité des points dans notre cours concernant l'amour qu'une personne peut avoir pour les gens de sa famille. Et nous avions traité ces points, donc je vous renvoie vers ce cours concernant cela, le fait qu'une personne peut aimer les gens de sa famille, même s'ils ne sont pas sur la religion de l'islam, du moment que cet amour ne sera pas un amour pour leur religion, et ne sera pas un amour plus fort que celui qui est demandé aux croyants. Et comme cela, le fait que tu aimeras, ceci est la croyance de l'alliance et du désaveu qui nous est obligatoire à tous d'avoir. Tu aimeras une personne selon ce qu'elle a en elle comme foi en Allah et son messager. Et tu détesteras une personne selon ce qu'elle a en elle comme non-croyance en Allah et son messager. Et ceci, cette croyance de l'wala ou al-bara, s'applique aussi aux gens de l'innovation, comme à ceux qui commettent des péchés. C'est-à-dire que tu aimeras ton frère musulman en fonction de ce qu'il a comme obéissance à Allah et son messager, tu le détesteras pour sa désobéissance. Comme cela, les gens de l'innovation, tu les détesteras pour les innovations qu'ils font et pour leur désobéissance à Allah et son messager. Tu devras donc t'allier et te désavouer en fonction de ce que les gens auront en eux comme foi, foi et obéissance, ou non-croyance et désobéissance. Et ceci comme l'a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith où il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, l'anse la plus solide de la foi est l'amour en Allah et le fait de détester pour Allah. Voici pour ces trois points. On va terminer le cours en terminant l'introduction de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, puis nous entamerons au prochain cours incha'Allah le premier de ces trois fondements. Puis Cheikh al-Islam dit dans la suite du matn, il dit: « I'lam arshadaka Allah li ta'atihi أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Ici, la fin de l'introduction. Sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que Al-Hanifiyya, qui est la religion d'Ibrahim, consiste à adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. C'est cela qu'Allah a ordonné aux hommes et c'est le but pour lequel il les a créés. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pour qu'ils m'adorent signifie pour qu'ils croient en mon unicité et pour qu'ils n'adorent que moi. Et la plus grande et la plus importante et la plus grande et la plus importante et le plus important des ordres d'Allah qu'il nous a ordonné, qu'il nous a donné est at-tawhid, c'est-à-dire le monothéisme. Et le tawhid signifie de rendre toutes les formes d'adoration exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. La plus grave et la plus dangereuse des choses qu'Allah nous a interdit est shirk, l'idolâtrerie. Et le shirk signifie invoquer autre qu'Allah avec lui. Et la preuve de cela se trouve dans le verset suivant, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Ces points, nous allons terminer rapidement dessus, car ce sont des points que nous avons déjà étudiés. Donc, nous dirons ici que Cheikh Al-Islam a terminé son introduction aux trois fondements en nous parlant de Al-Hanifiyya. Il nous dit, sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que Al-Hanifiyya, qui est la religion d'Ibrahim, consiste à adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Al-Hanifiyya, nous l'avons déjà évoqué et étudié dans notre étude de Al-Qawaid Al-Arba'a, les quatre règles. Nous avions dit que Al-Hanifiyya, quelle est-elle ? Ahmed, ou tfaddal. Ahsant al-iqbal wa Allah wa al-i'rad amman siwa, c'est-à-dire al-hanifiyya, c'est le fait d'aller vers Allah, vers son obéissance et de se détourner d'autres que lui dans l'adoration. Et ceci est la religion de Ibrahim alayhi salam et Allah azza wa jalla l'a évoqué dans plusieurs versets, il nous dit dans le sens approximatif de ces paroles, il dit Ibrahim était un guide, umma, parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était pas du nombre des associateurs. Ceci est le sens de Al-Hanifiyya, le fait d'être soumis à Allah Azza wa Jal, voué à lui exclusivement. Et ceci est la religion de Ibrahim qu'il nous a été ordonné de suivre, comme cela Allah Azza wa Jal dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Ibrahim qui est Al-Hanifiyya, le fait de se soumettre entièrement à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc Al-Hanifiyya, c'est le fait de vouer un culte exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala et de se détourner de l'adoration d'autres que lui tabaraka wa ta'ala. Ibrahim est le père des prophètes. Et Allah azza wa jalla nous a évoqué ce qu'il en était de se détourner de sa voix, la voix du père des prophètes, cette voix Al-Hanifiyya qu'il ordonna à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre. Et il dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles, qui donc aura en aversion la religion de Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Voici comment Allah tabaraka wa ta'ala a décrit celui qui se détourne de Al-Hanifiyya, de l'adoration d'Allah azza wa jalla seul et sans associé, de la religion de Ibrahim, à laquelle Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre. Puis, Cheikh Al-Islam nous évoqua après cela le fait que la plus grande et la plus importante ou le plus grand et le plus important des ordres qu'Allah nous a ordonné est le tawhid. Nous avons évoqué ce qu'est le tawhid, nous avions dit que le tawhid était ifradullah bil ibada, le fait d'adorer Allah seul et sans associé, de l'unifier dans l'adoration. Nous avions évoqué aussi deux sortes de tawhid ou trois sortes de tawhid, tawhid ar-rububiyya, c'est-à-dire l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il nous évoqua aussi, Cheikhoul Islam, que la plus grave et la plus dangereuse des choses qu'Allah nous a interdit est ash-shirk, c'est-à-dire l'idolâtrerie. Et il nous évoqua ici que l'idolâtrerie est le fait d'invoquer autre qu'Allah avec lui. Ceci est une partie de l'idolâtrerie de shirk. Et ash-shirk se divise en deux, comme nous l'avons déjà évoqué, ash-shirkul akbar, c'est-à-dire l'idolâtrerie ou l'association majeure, et ash-shirkul asghar, l'association mineure, que nous avions déjà détaillé dans d'autres cours, que nous allons détailler ici, dans le prochain cours, incha'Allah ta'ala. Nous commencerons donc le prochain cours par cela, définir ce qu'est al-tawhid et ce qu'est al-shirk avant de commencer le premier des trois fondements, al-usul al-thalatha, évoqué par Cheikhoul Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, ces trois fondements qui constituent les trois questions qui seront posées au serviteur dans sa tombe. Quel est ton Seigneur, ou qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète, cet homme qui te fut envoyé. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.